Voilà, monsieur Sangaré Yakuba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député ivoirien, un membre de la commission, mais du réseau ivoirien des parlementaires pour la protection de l'environnement et des forêts. Vous êtes ici pour prendre part donc aux activités de la COP. Tout se passe bien?
Oui, tout se passe très bien.
Alors, qu'est-ce que vous avez apporté de concret lors des débats pendant les différentes sessions?
Bon, vous savez, la COP est une grosse machine. Il y a beaucoup de choses qui se passent à la fois, de façon simultanée. Et donc, on peut pas être partout à la fois. Mais les side events auxquels moi j'ai participé, j'ai toujours apporté ma contribution en termes de partage d'expérience. En même temps qu'on écoute les autres pour apprendre ce qui est bien chez eux, on leur dit ce qui est bien aussi chez nous, ce que nous faisons pour, comme lutte, comme effort à fournir dans la lutte contre les changements climatiques.
Mais justement, qu'est-ce que fait votre commission dans ce domaine?
Notre commission, c'est une commission qui a beaucoup d'attributions, mais sur le plan de l'environnement, sur le plan des problèmes climatiques, nous nous battons pour que les Ivoiriens puissent vivre dans un environnement sain. Et nous faisons de la sensibilisation beaucoup. Et nous regardons un peu, nous nous occupons des problèmes de boisement, des problèmes de déforestation. Et nous sensibilisons nos parents et nos populations à préserver donc nos forêts, qui sont la principale source d'oxygène. Donc, à ce niveau-là, notre commission fait beaucoup de missions de terrain.
Oui. Nous avons rencontré et interviewé d'ailleurs le maire de la commune de Cocody à Abidjan. Il nous a parlé d'un projet qui nous a subjugué en tant que journaliste. Ce projet consiste à rendre verte la ville de Cocody, Cocody Cité Verte. Est-ce que vous travaillez de commun accord avec la commune de Cocody?
Mais pas de façon particulière, parce que la gestion des communes dépend directement de l'exécutif. Nous sommes du législatif, donc il ne faut pas mélanger les gens.
Mais vous appréciez quand même, vous encouragez ce genre d'initiative?
Absolument, en tant que commission environnement, j'ai même rencontré, j'ai pas manqué de dire au maire de Cocody toute ma gratitude et surtout mon admiration pour ses actions. Et Cocody Cité Verte n'est pas qu'un slogan, c'est une réalité déjà, parce qu'à partir du mois de janvier prochain, ils vont passer à la phase active.
Jusqu'en 2030, c'est ce qu'ils nous disaient.
Jusqu'en 2030, et je crois qu'ils ont prévu planter 2 millions d'arbres. Et je pense que la commune de Cocody va servir d'exemple à toute la Côte d'Ivoire. Et nous sollicitons...
Pourquoi pas à toute l'Afrique?
À toute l'Afrique, pourquoi pas. Nous demandons à tous les maires de la Côte d'Ivoire de regarder un peu l'exemple de Cocody pour que ça puisse vraiment servir. Et c'est dommage que la Côte d'Ivoire, qui est un pays forestier, puisse avoir des villes qui ne sont pas des villes vertes. Donc, Cocody a donné le ton. Et quand Cocody donne le ton naturellement, et ça veut dire que c'est un message envoyé à toute la Côte d'Ivoire. Parce que Cocody, c'est la commune quand même présidentielle. Le président de la République vit à Cocody.
Qui compte près d'un million d'habitants, selon nos sources.
Voilà. Donc, c'est une commune dans laquelle vit le président de la République. Et la plupart des ministres vivent à Cocody. Et la plupart des ambassades sont à Cocody. Donc, c'est une commune symbole. Et alors, donc si un tel message part de Cocody, je pense que ce message fera écho.
Oui. Selon nos informations, monsieur le député, le secteur café-cacao risquerait d'être menacé à la longue, justement à cause des réchauffements climatiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Bon, le secteur café-cacao, ça c'est un exemple, mais il n'y a pas un secteur qui va être épargné par les réchauffements climatiques. Et il faut quand même comprendre que la problématique du réchauffement climatique est une problématique complexe. Ça n'épargne aucun domaine d'activité. C'est la planète tout entière qui est menacée. Donc le secteur café-cacao, les gens font une relation directe entre ce secteur et le réchauffement climatique en oubliant que ce secteur n'est pas un secteur isolé. Et le café se cultive naturellement sur la terre des hommes. Et si cette terre est réchauffée, ben, il n'y aura pas que le café qui va disparaître, c'est l'humanité qui risque de disparaître. Mmh. Voilà, donc je crois qu'il faut qu'on soit conscient de cette réalité-là.
Mmh. Parlons maintenant politique, Monsieur Sangaré Yakuba. En 2020, devrait avoir lieu l'élection présidentielle et le président Ouattara l'a répété à maintes reprises qu'il ne sera pas candidat. Et la conséquence, c'est que la course à sa succession est ouverte avec les intrigues politiques et politiciennes. Est-ce que cela ne vous inquiète pas?
Non, moi je trouve que ça c'est dans l'ordre normal des choses. À partir du moment où le président Ouattara n'est pas candidat à sa propre succession, et que cela n'est pas un secret en Côte d'Ivoire, il le dit, il le répète à toutes les occasions.
Est-ce qu'il ne peut pas changer d'avis, le président Ouattara ?
Le président Ouattara que moi je connais et que nous connaissons en Côte d'Ivoire n'est pas homme à changer d'avis, à changer de parole.
C'est quelqu'un surtout que la Constitution ne lui interdit pas.
Non, la Constitution actuelle ne lui interdit pas d'être candidat à sa succession parce que la Constitution, la loi n'étant pas rétroactive, ne le rattrape pas. La Constitution a été votée après son élection.
Mais donc, ne dispose que pour l'avenir.
Voilà. Mais lui, en tant qu'homme, il a dit « je ne ferai que deux mandats ». Et comme nous, on le connaît comme un homme de parole, il n'y a aucun risque pour nous vraiment que Ouattara revienne sur sa parole.
Ça, oui, c'est... mais depuis quelques semaines, des tensions étaient latentes entre le président Ouattara et celui qui était présenté jusqu'à récemment comme étant son défunt, Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale. Puisque le président Ouattara n'est plus candidat, est-ce qu'il était opportun que ces tensions naissent ?
Bon, vous savez, les tensions, il faut connaître les causes des tensions. La tension latente dont vous parlez entre le président Ouattara et le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, bon, ça peut. Les deux se sont rencontrés d'ailleurs et il n'y a plus de problème entre
les deux. Mais est-ce que ce n'est pas de la poudre aux yeux ?
La poudre aux yeux, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, donc je ne prends que ce que j'entends, je ne prends que ce que je vois. Et le président Ouattara et le président Guillaume Soro, il n'y a en réalité pas de raison qu'il y ait des tensions entre les deux. Et si le président Guillaume Soro a des ambitions présidentielles, quoi de plus normal ?
Mais apparemment, le clan qui entoure le président Ouattara ne voit pas d'un bon œil hein, une éventuelle candidature de Guillaume Soro en 2020.
Moi, je ne vois pas d'Ivoirien aujourd'hui qui verrait d'un mauvais œil la candidature du président Guillaume Soro. S'il est citoyen ivoirien et il bénéficie, il joue de tous ses droits et civiques, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas avoir d'ambition présidentielle. Et moi qui vous parle, si j'ai des ambitions présidentielles, est-ce que c'est un crime ? Voilà, tout citoyen ivoirien, la Constitution de la Côte d'Ivoire est claire là-dessus, tout citoyen ivoirien qui joue de ses droits peut prétendre être candidat à la présidence de Côte d'Ivoire.
Oui, mais beaucoup de proches du président Ouattara estiment que le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est un peu trop pressé dans ses ambitions.
Pressé par rapport à quoi ? C'est cette question que je ne comprends pas. Pressé par rapport à quoi ?
Il affiche ouvertement son intention de succéder au président Ouattara.
Mais c'est pas caché. Il n'est pas le premier à dire qu'il sera candidat. Il y a des gens déjà qui ont dit « je serai candidat ». Une présidentielle ne se prépare pas en 6 mois. Et ça se prépare depuis longtemps. Un candidat sérieux doit quand même afficher ses ambitions depuis longtemps. Si le président Guillaume Soro, moi, il ne m'a pas encore dit qu'il était candidat. Moi,
Oui, mais ça se sent. Hein, sur les réseaux sociaux, il est présent. On sent que Guillaume Soro est dans le starting block.
Hein. Le président Guillaume Soro est un homme politique. Il est président de l'Assemblée nationale, institution politique. Si en 2020, il veut être candidat à la présidence de la Côte d'Ivoire, il a ses droits.
Il ne risque pas d'être broyé par la machine Ouattara ?
Son élection, la machine Ouattara, il n'y a pas de machine Ouattara. Ouattara n'est pas candidat à sa propre succession. Le président Ouattara a fait une très, très belle présidence. J'ai pas, après le président Houphouët-Boigny, excusez-moi, il faut qu'on soit clair. Après le président Houphouët-Boigny, il n'y a pas un président ivoirien qui a travaillé comme le président Ouattara. Vous avez vu la Côte d'Ivoire qui s'est métamorphosée en quelques années ? Ouattara a fait tout ce qu'il pouvait humainement faire pour la Côte d'Ivoire. Maintenant qu'il n'est pas candidat en 2020, mais acceptons que tout Ivoirien qui se sent capable, parce que le président Ouattara a mis la barre à un niveau très élevé, tout Ivoirien qui se sent capable de continuer sur cette lancée peut prétendre à être candidat.
Peut-être maintenant, que les proches du président Ouattara, comme le ministre Bakayoko Ahmed, ne veulent pas compétir face à un Guillaume Soro de plus en plus populaire.
En fait, pour être candidat, pour être président en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un individu qui se lève, qui décrète qu'il va être président. C'est le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple souverain de Côte d'Ivoire qui choisit son président. Nous avons choisi le président Ouattara. On l'a choisi par deux fois pour être président de Côte d'Ivoire. Il n'est plus candidat. Ceux qui vont se présenter devant nous, mais nous allons choisir celui que nous jugeons, nous pensons qu'il a les meilleures armes pour diriger la Côte d'Ivoire.
Est-ce que, Sangaré Yacouba, est-ce que vous imaginez Guillaume Soro investi candidat à la présidentielle 2020 par le RDR ?
La Côte d'Ivoire, la loi est claire. Pour être candidat à la présidence de la Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas obligé d'être investi par un parti politique. Il y a des candidats indépendants. Les dernières élections en Côte d'Ivoire, si vous les avez suivies, Il y avait beaucoup de candidats indépendants qui n'étaient pas investis par un parti politique. Donc tout individu, tout Ivoirien qui veut être candidat peut être parrainé par un parti politique comme il peut ne pas être parrainé par un parti politique.
Mais le problème, c'est que Guillaume Soro n'a pas encore officiellement démissionné du RDR. Il est encore lié à ce parti.
Mais les élections présidentielles, à ce que je sache, ce n'est pas demain. Nous sommes en 2017.
C'est dans 3 ans.
3 ans, quand même, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en 3 ans. Qu'est-ce qui vous dit que le président Soro Guillaume ne sera pas le candidat du RDR en 2020? Rien ne le dit. Le RDR n'a pas encore choisi son candidat. Le choix peut être lui, ça peut être un autre. Il y a beaucoup d'autres scénarios encore.
Oui, mais il y a des signes qui ne tombent pas. Guillaume Soro n'a pas été associé à l'organisation du dernier congrès qui a élu Henriette Diabaté à la tête du parti. Ce sont quand même des signes qui ne trompent pas, non?
Bon, ces signes, ça dépend dans quel sens on les décrypte. Moi, je pense qu'il n'était pas à ce congrès et il s'est expliqué là-dessus. Il a donné les raisons.
Il n'a pas été associé, hein, c'est ce qu'il a dit officiellement.
Il a dit clairement, c'est pas un secret qu'on va trahir ici. Il a dit, je l'ai lu, dans la presse comme vous. Et je pense que après sa rencontre avec le président, quand on nous dit qu'il y a plus de malentendus, je pense que j'imagine que tous ces sujets ont été abordés et que cela relève maintenant du passé.
Oui, mais vous dites qu'il n'y a plus de malentendus. Or, beaucoup de proches du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, sont harcelés. Hein, ce sont eux qui le disent. Il y a un de ses proches collaborateurs, Toul Soutoul, qui est son directeur de protocole, est en prison. Il est placé sous mandat de dépôt dans cette affaire de cache d'armes de Boaké. Ce sont quand même des pressions qui sont accentuées, même qui s'accentue autour de Guillaume Soro.
Mais vous savez, nous sommes en politique. En politique, il faut toujours accepter de prendre les coups. Et si les coups pouvaient empêcher quelqu'un d'être président de la République, le président Alassane Ouattara serait jamais président de la République de Côte d'Ivoire.
Mais est-ce que cette façon de faire, est-ce que ça ne va pas rendre Guillaume Soro fort? Parce que là, il se victimise un peu.
Oui, sur ce point, je suis peut-être d'accord avec vous, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et les adversaires d'alors du président Ouattara lui ont tellement donné des coups que ça n'a fait qu'accentuer sa popularité. Donc si on prend par parallélisme de forme, je me dis, et en faisant la même chose naturellement à quelqu'un aujourd'hui aussi, ça peut effectivement rendre la personne plus populaire. Donc à ce niveau-là, je pense que... mais sinon, les coups en politique, c'est toujours normal et ça se fait partout, qu'on soit en Europe ou en Afrique. Et personne ne fait la passe à son adversaire, mais c'est un terrain sur lequel il faut se battre pour avoir sa place. Et je pense que, bon, je me focalise parce que vous m'avez posé la question sur le président Guillaume Soro. Je pense qu'il a assez d'arguments, il est assez armé en tout cas et politiquement pour pouvoir résister à tous ces coups, parce qu'il en a déjà pris assez dans sa vie quand même. Hein.
Oui, beaucoup de cadres du RDR qui ne sont pas avec Guillaume Soro craignent justement sa popularité de plus en plus montante. Hein. Est-ce que Guillaume Soro ne ferait pas de l'ombre à la longue au président Ouattara?
Bon, quand vous dites beaucoup de cadres du RDR, moi je suis un cadre du RDR, la popularité de Guillaume Soro ne me pose aucun problème. Au contraire, je me réjouis d'avoir un cadre de mon parti qui soit populaire au niveau national.
Oui, mais tous les militants du RDR ne sont pas avec Guillaume Soro.
Tous les militants du RDR ne peuvent pas être avec un individu, ils sont avec le parti. Les individus ont leur obédience personnelle. L'équation individuelle de l'individu, ça compte beaucoup. Si Guillaume Soro a beaucoup de popularité aujourd'hui, c'est dû à son équation personnelle, sa capacité à fédérer les synergies autour de sa vision. Moi, je pense qu'il n'y a pas autre chose que cela. Et dans chaque parti politique, vous n'allez pas quand même... l'unanimisme...
Il y a plusieurs ailes. Hein. L'aile Bakayoko, l'aile Gonkoulibaly, l'aile Guillaume Soro.
Il y a peut-être même l'aile Sangaré, pourquoi pas. Vous savez, dans un grand parti comme le RDS, c'est tout à fait normal qu'il y ait ces courants, des pensées, qu'il y ait ces obédiences, vraiment. Parce que le RDS regorge de cadres compétents, dynamiques, brillants. Alors, pour quand même faire l'unanimité... Moi, je ne pense pas qu'on puisse faire l'unanimité dans un parti comme le RDR. Mais à un moment donné, le consensus va se faire autour de quelqu'un, en tout cas celui qui a plus de chances de pouvoir nous faire gagner les élections.
Oui. Et pour l'heure, c'est Guillaume Soro qui a toutes les chances, non, de faire gagner le RDR?
Ça, c'est difficile à dire. Je n'ai pas pesé, comment on appelle, les candidats, parce que le meilleur baromètre pour savoir qui est capable de gagner les élections, il faut d'abord peut-être des primaires.
Ça, vous allez insister pour qu'il y ait des primaires
Les primaires, moi, ça c'est mon opinion personnelle en tant que citoyen ivoirien, je l'ai toujours défendu. Le meilleur baromètre pour moi, pour connaître la popularité de quelqu'un dans un parti politique, c'est les primaires. Les grandes démocraties ont toujours recours à cela et ça me paraît juste. Parce que toute autre méthode en dehors des primaires me paraît arbitraire.
Ouais. Monsieur le député, où est-ce qu'on en est avec l'alliance RDR-PDCI? Il y a eu quand même des périodes de flottement. Hein.
Les alliances, c'est comme les mariages. Les périodes de flottement ne peuvent pas manquer. Le RDR et le PDCI sont en alliance. C'est la preuve, nous sommes dans le même gouvernement. C'est un gouvernement RHDP qui est là aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, il y a différents groupes parlementaires.
Là, déjà, c'est un échec, non? Vous êtes entendu pour avoir un groupe parlementaire RHDP. Or là, chacun est allé de son côté.
Ce n'est pas un échec. Depuis que la législature passée, il y avait deux groupes, il y avait ces différents groupes parlementaires qui existaient. Mais toutes les lois ont été votées pratiquement à l'unanimité par ces différents groupes parlementaires. Donc ça veut dire que, bien qu'on ne soit pas dans les mêmes groupes parlementaires, nous avons la même vision parce que nous soutenons le même gouvernement. C'est cette majorité à l'Assemblée nationale qui est au gouvernement.
Ouais. Donc c'est le PDCI hein, du président Henri Konabidi qui a contribué à l'élection donc, du président Ouattara hein, en 2010 et en 2015.
Naturellement.
Selon des indiscrétions, les deux ténors de la politique que sont Ouattara et Bédié se sont entendus pour qu'en 2020, eh bien, ce soit un candidat du PDCI qui puisse représenter hein, donc, les deux formations politiques à l'élection présidentielle. Est-ce que c'est toujours d'actualité?
Ces indiscrétions, je ne les ai pas parce que ça s'est dit, comme moi je n'étais pas témoin de ces accords-là, tout ce que je sais, le PDCI a soutenu fortement et de façon claire et nette l'élection du président Ouattara en 2010. Et en 2015, le PDCI n'a pas voulu présenter de candidat pour ne pas gêner la candidature du président Ouattara.
Et vous devez peut-être lui rendre l'ascenseur, non, en 2020?
Lui rendre l'ascenseur, je ne sais pas ce que cela signifie.
Soutenir un candidat PDCI puisque le président Ouattara ne sera pas candidat en 2020?
Mais puisque les deux parlent de parti unifié, le président Ouattara et le président Bédié disent qu'il y aura un parti unifié.
Et vous y croyez toujours, le RHDP?
Moi, j'ai toujours cru au RHDP et pour plusieurs raisons. Et si vous voyez, la Côte d'Ivoire est stable aujourd'hui. Depuis 2010, depuis l'élection du président Ouattara, la Côte d'Ivoire est dans une stabilité. Le président Ouattara a déroulé son programme de gouvernement. Il a fait progresser la Côte d'Ivoire sur beaucoup de fronts. Je pense que c'est grâce à cette stabilité, à cette paix, à cette union, à cette coalition qui est au pouvoir aujourd'hui. Alors, ensemble, nous sommes plus forts, mais divisés, je pense que la Côte d'Ivoire va souffrir de notre division. Alors donc, le parti unifié, moi, ce n'est pas une vue de l'esprit, moi, dans ma tête. Hein. Pour moi, c'est réalisable, pourvu qu'on y mette de la volonté. Et je pense que cette volonté-là est partagée entre le président Ouattara et le président Bédié. Et je pense qu'ils vont quand même amener leurs troupes à faire ce parti unifié. À partir du moment où il y a un parti unifié, on ne parle plus d'alternance au pouvoir. Voilà. C'est peut-être les autres qui ne sont pas avec nous qui vont chercher à prendre notre place un jour. Sinon, cette coalition-là, en partie unifiée, va rester au pouvoir le plus longtemps possible.
Depuis plusieurs mois, il y a eu une série de mutineries, hein, des mutins qui réclamaient et qui continuent de réclamer le reste de leur solde. Est-ce que ce n'est pas une situation qui risque de fragiliser le pouvoir à la longue?
Oui, toute mutinerie est en soi-même une cause de fragilisation des efforts parce que ça sape les efforts, ça effraie les investisseurs, ce n'est pas des actions à encourager. Mais heureusement, dans le cas de la Côte d'Ivoire, et j'étais bien heureusement entre griffes, heureusement, ces mutins n'ont pas de revendications politiques, c'est des revendications matérielles. Et les revendications matérielles sont des revendications quand même qu'on peut satisfaire. À partir du moment où l'objet de la revendication n'est plus là, il n'y aura plus de revendication. Donc moi, je pense que ce n'est pas des choses qui peuvent avoir des conséquences dans la durée, je ne crois pas.
Ouais. Dernière question, monsieur le député. Le président Laurent Koudou-Gbagbo est toujours en détention à La Haye. Quelques dirigeants africains, quelques membres des sociétés civiles africaines militent ouvertement pour sa libération, du moins sa libération provisoire. Est-ce que vous, en tant que cadre du RDR et ivoirien, est-ce que vous êtes d'avis?
Oui, moi je suis d'avis et je fais partie de ceux qui militent pour la libération de Laurent Gbagbo. Pour la simple raison que le président de l'Assemblée nationale, qui est mon patron,
il lui a demandé pardon hein, officiellement.
Non seulement il a demandé pardon, mais il a demandé pardon à tous les Ivoiriens. Et il a une vision que moi je partage, c'est la réconciliation effective de tous les Ivoiriens, le rassemblement de tous les Ivoiriens autour d'un idéal de paix. Et cette réconciliation ne saurait être, comme on appelle, à géométrie variante. Donc si on veut la réconciliation effective, cela suppose qu'on doit pardonner toutes les fautes commises. Et Laurent Gbagbo est en prison pour des fautes qu'il a sûrement eu à commettre.
Oui, mais il n'est pas le seul à avoir commis. Guillaume Soro a dirigé la rébellion. Voilà, il doit aussi repentir, non ?
Le pardon, la réconciliation doit être inclusive. Donc, vu sous cet angle-là, j'ai dit, je ne serais pas opposé à une libération de Laurent Gbagbo. C'est un Ivoirien. Comme tous les autres Ivoiriens, on a besoin de se réconcilier. Et comme lui, il est Ivoirien aussi, on a besoin de se réconcilier avec lui.
Oui, mais est-ce que la réconciliation doit empêcher qu'on fasse justice? Parce qu'il y a aussi des partisans du président Ouattara qui auraient dû aussi s'expliquer devant la CPI.
Je vais vous dire une chose. La libération de Laurent Gbagbo ne dépend pas des Ivoiriens aujourd'hui. À partir du moment où c'est un tribunal international qui le détient, c'est ce tribunal qui peut décider de sa libération. Maintenant, moi, mon souhait, en tant qu'Ivoirien, c'est de voir tous les Ivoiriens réunis ensemble dans une fraternité vraiment partagée. Donc, Laurent Gbagbo, à ce titre-là, moi, je ne serais pas contre sa libération. Maintenant, vous posez un problème. Justice et
réconciliation.
Et réconciliation. Il faut, à un moment donné, prendre des décisions politiques. Parce qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde est victime de quelque chose. Tout le monde est auteur de quelque chose. Même par un simple regard, même par un mot déplacé, vous avez peut-être blessé quelqu'un. Donc, à ce niveau-là, chacun a offensé quelqu'un. Chacun a été victime d'une offense. À un moment donné, il faut prendre la décision politique pour dire stop, il faut qu'on se pardonne, qu'on passe, comment on appelle, qu'on fasse une croix sur le passé pour qu'on ne parle plus du passé.
Oui, mais pourtant, qu'on se projette dans l'avenir. Beaucoup de prisonniers politiques proches de Laurent Gbagbo sont toujours en prison. Simone Gbagbo, son épouse, est en prison. Beaucoup d'Ivoiriens proches de Laurent Gbagbo sont en exil. Et vous parlez de réconciliation.
Non. Et c'est vous qui avez demandé la justice. Vous voyez, quand on ne peut pas demander une chose et son contraire en même temps. Moi, j'ai dit, ceux qui sont en prison, ils sont présumés innocents. Mais sûrement qu'on leur reproche quelque chose. Mais après même le jugement, on peut pardonner. Le président de la République, dans toutes les démocraties,
et même en Côte d'Ivoire, droit de grâce.
Même en Côte d'Ivoire, le président Ouattara a beaucoup utilisé son droit de grâce.
Mais pourquoi ne pas libérer Simone Gbagbo? Elle ne dépend pas de la justice internationale.
Elle dépend de la justice ivoirienne. Mais attendez jusqu'au bout de la procédure judiciaire. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Rien ne dit qu'on ne l'a pas condamnée à vie. Donc, Simone Gbagbo, sa libération peut arriver à n'importe quel moment. Nous sommes dans une... Le président Ouattara même est dans cette disposition d'esprit de réconciliation. Donc, moi, j'ai dit, il faut gérer les situations au fur et à mesure. Beaucoup, le gouvernement a fait beaucoup de concessions. On nous disait que les comptes étaient bloqués, les comptes ont été dégelés, les exilés rentrent tous les jours. Moi, je pense que les signaux d'apaisement quand même sont là. Le président Ouattara a tendu la main. Et il faut quand même pas... En même temps, vous êtes en train, quelqu'un vous tend la main, vous êtes en train de le diaboliser dans le même temps. Je dis, il faut aussi que cette opposition comprenne qu'il faut mettre balle à terre quelquefois.
Vous êtes satisfait des 7 ans de présidence Ouattara?
Si je dois faire un bilan des 7 ans du président Ouattara aujourd'hui, s'il était noté sur 20, moi, je lui donnerais 18.
C'est pas trop exagéré, monsieur le député?
C'est pas exagéré pour la simple raison que je regarde d'où nous sommes partis. Parce que quand le président Ouattara arrivait au pouvoir, la Côte d'Ivoire était défigurée, balafrée par ce qu'on aurait pu, on n'aurait pas
par
pu.
Par 10 ans de crise politique.
Oui, vous voyez. Donc, quand lui faisait sa promesse électorale, il les faisait en se basant sur une situation normale. C'est-à-dire qu'il arrivait à la présidence et avec passation de services et entre des gentlemen. C'est ça qui était dans sa tête. Mais malheureusement, il n'a pas pris le pouvoir dans ces conditions. La Côte d'Ivoire n'était pas au rez-de-chaussée. La Côte d'Ivoire était au sous-sol quand lui il arrivait. Alors, il fallait d'abord, dans un premier temps, amener la Côte d'Ivoire au rez-de-chaussée avant de commencer à monter les escaliers. Donc, ce travail, si on n'avait pas eu la chance d'avoir quelqu'un comme le président Ouattara, moi, je me demande, c'était fini. La Côte d'Ivoire allait sombrer pour des décennies encore. Mais quand vous regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous avez du mal à imaginer que ce pays a connu cette crise-là, que ce pays était défiguré. Donc, j'ai dit, à ce niveau-là, il a fait plus d'efforts que tout le monde. En 5 ans déjà, il avait mis la Côte d'Ivoire sur les rails. Et aujourd'hui, au niveau des infrastructures, au niveau même, l'État n'existait pas en Côte d'Ivoire quand Ouattara arrivait au pouvoir.
L'État était en déliquescence.
L'État était plus, n'existait même plus. Tout était par terre. L'Assemblée nationale dans laquelle moi je travaille, il n'existait que de nom. Même les câbles électriques n'existaient pas. Tout était parti. Donc, il a pris un État pratiquement au niveau zéro. Et arrivé à ce niveau aujourd'hui, j'ai dit, c'est une prouesse. Donc, il faut pas, ça c'est pas complaisant, et qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, si on ne peut pas reconnaître ce qu'il a fait là, je dis c'est de la mauvaise foi. Voilà, ça donc s'il est à noter aujourd'hui, moi je lui donnais 18 sur 20 pour le travail accompli.
Bien, Sangari Yakuba, merci.
Je vous en prie.